Exode chapitre 1, on va consacrer 4 dimanches cet été sur les mois de juillet et août à parcourir les 4 premiers chapitres de ce livre de l'Exode. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants, au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » On établit donc sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'on construisit les villes de Pitom et de Ramsès, destinées à servir d'entrepôt au Pharaon. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux, avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une s'appelait Chipra et l'autre Poua. Il leur dit, « Quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leur enfant et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent au Pharaon, « C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. » Et vous laisserez vivre toutes les filles. Il y a quelques années, un groupe d'étudiants a monté une vidéo parodique dans laquelle on voit de jeunes Africains se mobiliser pour venir en aide aux enfants de Norvège qui souffrent du froid. Et donc on a des artistes africains qui se réunissent pour organiser un concert, pour lever des fonds. Et il y a en particulier une collecte de radiateurs, c'est pour ça que ça s'appelle Radi Aid, qui est organisée pour les envoyer à Oslo. Et l'idée, bien sûr, de cette vidéo, c'était d'aider les Occidentaux, les Européens, à imaginer un monde où les choses seraient renversées, où les pays prospères deviendraient les pays dits pauvres, et vice-versa. Et c'est vrai qu'on peut se poser cette question, comment réagirions-nous s'il y avait un tel renversement de situation par lequel nos pays dits riches devenaient des pays où règne la guerre et la misère. Si c'était des Français qui allaient essayer de chercher refuge au Maroc, en Algérie, au Soudan, en Érythrée, pour fuir la guerre ici, comment le vivrions-nous? Dans le texte que nous allons examiner ce soir, que j'ai lu, on assiste dans un sens à un tel renversement. On a un peuple qui vivait dans une situation plutôt confortable, plutôt prospère, et qui va se retrouver assez brusquement dans une situation d'humiliation et de misère. Maintenant, ce qui complique les choses, c'est que le peuple en question, c'est le peuple qui a été choisi par Dieu pour être son peuple témoin, en quelque sorte, parmi les nations, le peuple d'Israël. Plus tard que ce récit, il va y avoir une alliance formelle que Dieu va conclure avec ce peuple, mais déjà, Dieu a adressé des promesses au premier patriarche, au père fondateur de ce peuple, Abraham. Et on peut se demander, en voyant le peuple de Dieu donc qui souffre ainsi, mais qu'est-ce qui se passe? Que fait Dieu dans tout cela? Pourquoi est-ce qu'il permet une telle humiliation à son peuple? Et Donc ça, c'est la question directe que le texte nous pose. Et puis, question plus large que nous allons nous poser également, comment devons-nous réagir dans notre relation avec Dieu quand nous traversons des périodes sombres et difficiles? Le message d'Exode pourrait, je le suggère, être résumé en une phrase, Exode chapitre 1, résumé en une phrase, l'épreuve ne cesse d'augmenter, mais Dieu n'a rien oublié. L'épreuve ne cesse d'augmenter, mais Dieu n'a rien oublié. Et donc on va simplement diviser cette phrase en deux temps, et on va commencer donc par l'épreuve ne cesse d'augmenter. Alors au début du chapitre, tout va bien. Pour rappeler un petit peu le contexte, ce début du livre de l'Exode suit directement la fin du livre de la Genèse qui le précède. Et donc c'est en quelque sorte la saison 2 de l'Ancien Testament qui commence. Sauf que ce n'est pas de la fiction. Hein, mais... Alors qu'est-ce qu'on voit dans les derniers épisodes de la saison 1, donc la fin de la Genèse? On voit que Joseph, arrière-petit-fils d'Abraham, fils de Jacob, a été capturé comme esclave par les Égyptiens. Et donc au début, ça se passe très mal pour lui. Mais au fil du temps, il va gagner leur confiance, il va être libéré de son esclavage, il va devenir haut fonctionnaire et même, en quelque sorte, le premier ministre du Pharaon. Donc un ascenseur social impressionnant. Une fois arrivé à cette situation particulièrement favorable, eh bien Joseph va faire venir sa famille. Il fait venir son père, Jacob, et tous ses frères. Et là, en quelque sorte, on a les membres fondateurs du peuple hébreu. Et Joseph, qui a donc ce rapport de confiance avec le Pharaon, va obtenir que toute sa famille puisse obtenir des terres en Égypte et qu'il puisse être propriétaire de ces terres. Et à la toute fin de la Genèse, Joseph meurt de sa belle mort, comme on dit, âgé, repu de jour, et il laisse sa famille donc dans cette situation privilégiée. Et le début du chapitre 1 de l'Exode nous rappelle cela, un peu comme dans les séries, vous savez, la récap, alors, lors de l'épisode précédent, etc. Verset 1, « Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. » C'est pas pour rien que le narrateur donc cite ces noms. Non seulement il s'agit des fils de Jacob, ou pour deux d'entre eux de ses petits-fils, mais aussi des fondateurs des 12 tribus d'Israël. Donc ces versets 1 et 2 nous rappellent, sont une manière pour le narrateur de bien nous montrer que le peuple d'Israël est là et il est au complet en Égypte. Mais verset 6, Joseph meurt, alors ça on le savait déjà par la fin de la Genèse, mais il nous rappelle, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Donc passage de génération, et que va-t-il se passer? Verset 7, les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Donc a priori, pour l'instant, tout va bien, toujours. Le peuple est bien installé en Égypte, on l'a vu. Ils sont de plus en plus nombreux, ils sont puissants, ils sont prospères. Pas une ombre au tableau pour l'instant. Mais c'est là que tout va changer. Et d'ailleurs, c'est un rappel que l'histoire peut basculer vite. Et l'histoire le confirme largement. Verset 8. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte. Un roi qui n'avait pas connu Joseph. Un nouveau roi parvient au pouvoir. Un roi qui n'avait pas cette relation de confiance donc avec Joseph et avec son peuple. Et ça va tout changer. Verset 9. Il dit à son peuple, « Voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles vis-à-vis de lui. Empêchons-le de devenir trop nombreux, car en cas de guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Au passage, on remarque que les messages xénophobes étaient à peu près les mêmes à l'époque qu'aujourd'hui. L'idée d'un ennemi intérieur, d'un grand remplacement à venir, etc. Mais ce sur quoi le narrateur veut attirer notre attention ici, c'est ce brutal changement de situation. Et en fait, on constate une sorte de crescendo dans le texte. D'abord, ça commence par des travaux pénibles, verset 11. Puis, au verset 13, on monte d'un cran, les termes sont plus forts, les Israélites sont soumis à un dur esclavage. Au verset 15, on en arrive déjà au génocide. Projet d'élimination des bébés garçons. L'idée, c'était qu'on gardait les filles qui pouvaient éventuellement devenir des épouses pour les Égyptiens, mais les garçons qui pouvaient devenir des soldats, on les éliminait. donc d'abord via les sages-femmes, et on y reviendra, et puis par un terrible et glaçant permis de tuer adressé à tout le peuple, verset 22. Un engrenage effrayant qui n'est pas sans rappeler certains épisodes de l'histoire moderne. Et là, la question surgit. Qu'est-ce qui se passe, encore une fois ? Israël n'est-il pas le peuple que Dieu a choisi ? Et on repense à la promesse faite à Abraham, père fondateur du peuple hébreu, Genèse 12, 2. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Comment expliquer un tel décalage entre cette promesse et la situation désormais tragique que vit le peuple ? Et de nos jours, c'est peut-être le sentiment qu'on peut avoir parfois en regardant l'histoire de l'Église, l'Église au sens universel. Comment comprendre que les églises, d'une part, vivent tant de souffrances et tant d'épreuves, tant de persécutions dans certaines régions du monde, par ailleurs, et tant de problèmes, soient si divisées, qu'il y ait tant de controverses, parfois même des scandales terribles. Et pourtant, c'est le peuple porteur du message de Jésus-Christ, le peuple choisi par Dieu pour être témoin de la bonne nouvelle dans le monde. Et puis, bien sûr, dans nos vies personnelles, nous pouvons avoir des interrogations analogues. Nous nous sommes tournés vers Dieu, c'est le cas de beaucoup d'entre nous, la majorité certainement, par la foi en Jésus-Christ. Nous avons connu des moments forts dans notre vie avec lui. Nous avons été bouleversés par ses interventions. Mais là, depuis quelque temps, peut-être pour certains, ça semble ne plus être la même chose. Les tentations se font nombreuses, des épreuves nous ébranlent, et même peut-être peuvent nous faire douter de Dieu. Et on se pose la question, mais où est Dieu dans ces vallées sombres et sèches ? Est-ce qu'il nous aurait oubliés ? Une amie de ma famille a fait un voyage en Jordanie, il y a bien longtemps, et dans le cadre de ce voyage, il y avait une visite du magnifique site de Petra, une des merveilles du monde, un site magnifique. Et c'était une visite, en l'occurrence, une sorte de randonnée qui devait durer une demi-journée, quelques heures. Mais le guide s'est perdu. Et tenez-vous bien, c'est une histoire véridique, le groupe a erré pendant 3 jours dans le désert, en n'ayant presque rien à manger, avec juste quelques gourdes qui étaient prévues pour 4 heures. Le guide avait tellement honte, était tellement épuisé et désespéré qu'il a essayé de se donner la mort en se jetant dans une falaise, il a fallu le rattraper. Bref, c'est une situation absolument cauchemardesque. Heureusement, ils ont pu retrouver leur chemin. Mais ce qui devait être une promenade sympathique de quelques heures est devenu un calvaire de quelques jours, de plusieurs jours. Soit dit en passant, cet ami en question a fait un grand pas dans sa relation avec Dieu suite à cet épisode. Et parfois dans la vie chrétienne, c'est ce qu'on peut ressentir. On sait que Dieu nous a fait des promesses magnifiques, donc on s'attend peut-être à une promenade, à une sympathique randonnée. Il nous a fait des promesses magnifiques, il nous a promis que ni rien ni personne ne pourrait nous séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ, Romains chapitre 8. Mais en attendant, on constate que la vie est difficile, souvent. Il y a des hauts, bien sûr, il y en a, mais il y a aussi des bas, et pour certains, peut-être des très bas. Et de notre point de vue, nous pouvons nous demander pourquoi est-ce que Dieu nous fait passer par tant de détours ? Pourquoi est-ce que la promenade s'est transformée en calvaire ? Alors Dieu, lui, il sait pourquoi. Il a une vision absolument panoramique de toute chose. Il voit plein de choses que nous ne voyons pas. Il sait plein de choses que nous ne savons pas. Maintenant, dire cela, ce n'est pas essayer de chercher des solutions, des explications toutes faites et faciles au problème du mal ou de la souffrance. Au contraire, c'est dire que souvent, l'explication, nous ne l'avons pas. Et nous devons reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Mais avant de passer au point suivant, je soulignerai quelque chose d'important. C'est que dans le cas de la situation d'Israël, de ce terrible renversement de situation en Égypte, Dieu en fait avait annoncé les choses à l'avance. Et on voit ça dans le livre de la Genèse, chapitre 15, verset 13. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. » 400 ans. Mais Dieu poursuit au verset suivant. « Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Donc l'épreuve, comme la délivrance de l'épreuve, faisait déjà partie du plan de Dieu. Pour nous aussi, qui sommes disciples de Jésus-Christ, l'épreuve, elle est annoncée à l'avance, également, ainsi que la délivrance. Écoutez ce que dit Jésus à ses disciples, entre autres paroles, et on pourrait en citer pas mal d'autres. « Vous aurez à souffrir dans le monde, évangile de Jean, chapitre 16, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Et de même, les apôtres Paul et Barnabas, qui s'adressent aux chrétiens d'Asie mineure, leur adressent ces paroles. « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Acte 14, 22. Donc, nous étions prévenus. Nous sommes prévenus. Nous ne pouvons pas accuser Dieu de nous avoir caché le fait qu'il y a des difficultés dans la vie chrétienne. Difficultés, comme l'a dit Wissam plus tôt, qui viennent déjà de la vie dans ce monde. Il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent. Mais plusieurs passages de la Bible semblent indiquer que parfois, il y a des souffrances spécifiques qui sont dues au fait d'être fidèle à Dieu dans un monde qui le rejette. Heureusement, il n'y a pas que des souffrances, entendons-nous bien, dans la vie chrétienne, loin de là. Et puis l'issue de cette vie avec Dieu vaut infiniment la peine. Une vie éternelle, comblée auprès de Dieu dans un monde entièrement renouvelé. Mais ça n'empêche pas qu'en attendant, la vie présente est souvent difficile dans un monde souffrant et rebelle à Dieu. La vie était dure pour Israël en Égypte, la vie, de façon différente, est dure souvent pour nous aujourd'hui. Mais heureusement, le message biblique ne s'arrête pas là. Parce que Dieu, justement, il a des projets. Il a des projets pour nous. Il a des projets pour tous ceux qu'il a appelés à lui en Jésus-Christ. Il nous a adressé des promesses. L'épreuve guette. Parfois, elle semble ne faire qu'augmenter. Mais Dieu n'a pas oublié ses promesses, ni ses projets. Et même dans les temps où sa présence semble moins évidente, nous semble moins évidente, il agit en coulisses pour notre délivrance. L'épreuve ne cesse d'augmenter, mais Dieu n'a rien oublié. C'est notre deuxième point. Il est frappant de voir dans ce texte que Dieu laisse faire. Dieu permet ce tragique retournement de situation des Israélites en Égypte. Et pourtant, nul doute que la belle situation de Joseph et de sa famille, c'était une bénédiction de Dieu, et ça avait été vécu comme cela. Les premiers et tout premiers Hébreux qui vivaient comme ça dans cette situation de prospérité, ils pouvaient se réjouir de leur situation favorable en Égypte. Ils pouvaient se réjouir de la générosité de Dieu à leur égard. Et pourtant, dans sa souveraineté, Dieu a permis ce changement de situation auquel on assiste. Et on voit dans ce texte que le pharaon, qui commence à opprimer le peuple israélite, les Hébreux, eh bien, il semble le faire sans résistance. On ne voit pas d'action divine spectaculaire pour défendre son peuple face à l'injustice qu'il subit. Alors ça viendra, l'action spectaculaire contre les Égyptiens, plus loin dans l'Exode, mais ce n'est pas encore là, ce n'est pas encore pour tout de suite. Mais en lisant ce chapitre 1, si on lit entre les lignes, et même dans les lignes, parce que c'est explicite, en particulier à la fin du chapitre, on voit Dieu qui agit, en coulisses, mais qui agit. Dans le film d'espionnage La Taupe, sorti en 2011, je ne sais pas si certains l'ont vu, on voit une petite unité des services de renseignement britanniques, qui, c'est pendant la guerre froide, et ils se rendent progressivement compte qu'ils sont infiltrés. Il y a un traître parmi eux, une taupe, qui travaille pour les Soviétiques. Et ils s'en rendent compte petit à petit parce que les Soviétiques anticipent trop bien leurs actions, déjouent trop facilement tous leurs projets. Et donc, bien sûr, toute l'intrigue du film visera à découvrir qui est la taupe. Je ne vous dirai pas. Eh bien, dans ce texte d'Exode 1, c'est un peu comme si Dieu agissait en infiltré. Il n'y a pas d'action spectaculaire, mais les projets du roi égyptien, on voit qu'ils sont systématiquement sapés, déjoués. D'abord, au verset 12, on apprend que plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants. C'est étonnant comme formulation, on a l'impression que c'est un Égyptien qui s'est vu du point de vue d'un Égyptien, ils deviennent envahissants. Mais en tout cas, le constat, il est là. On essaye d'écraser ce peuple, ben en fait, il devient plus nombreux. Ça n'empêche pas l'épreuve, ça n'empêche pas la souffrance. Verset 14, il est question de la cruauté des Égyptiens. Mais leur projet d'affaiblissement démographique, on va dire, est déjoué. Ensuite, lorsque le pharaon veut éliminer les petits garçons nouveau-nés, ce sont les sages-femmes, dont deux qui sont citées nommément, Chipra et Pua, qui refusent d'obtempérer. Alors on ne sait pas avec certitude si ces sages-femmes étaient des Égyptiennes, qui étaient sages-femmes pour les Hébreux, ou si c'était des femmes issues du peuple hébreu. Les spécialistes débattent un peu de ça. Les noms semblent plaider un peu plus pour ce deuxième cas de figure, où ça serait des femmes hébraïques elles-mêmes. Et on peut penser qu'il y en avait plus que deux, hein, pour tout un peuple si nombreux. Sans doute que Shipra et Pua, c'était les leaders en quelque sorte, ou celles qui ont pris l'initiative, ou celles à qui le pharaon s'est adressé. Mais on peut supposer qu'il y en avait beaucoup plus qui ont participé à cette désobéissance civique, en quelque sorte, de refuser d'obéir à un ordre qui s'opposait à la volonté de Dieu. Et le texte. Et donc on voit que Dieu n'agit pas là de façon spectaculaire, mais il agit en coulisses, à petite échelle. Et il va susciter deux femmes modestes en apparence, peut-être même issues du peuple qu'il est en train d'opprimer, contre le grand roi d'Égypte. Et le texte souligne que Dieu a eu une attention particulière pour elles. Il ne s'est pas contenté de les utiliser, entre guillemets, mais il les a bénies, il a fait prospérer leur famille. Et si c'était bien des femmes issues du peuple hébreu, eh bien, on peut voir que déjà, elles ont vécu, elles, avec leur famille, à petite échelle, ce que Dieu préparait pour le peuple à plus grande échelle. Une issue favorable, la paix et la prospérité. Dieu n'avait rien oublié. Dieu sait très bien ce qu'il a promis à ce peuple. Il laisse faire, dans un sens, mais il n'est pas inactif. Maintenant, si on se met à la place d'un Israélite de l'époque, on pourrait imaginer le découragement, l'incompréhension et même peut-être les doutes vis-à-vis de l'amour de Dieu. Mais même dans ces temps sombres, Dieu a montré sa fidélité. Le peuple a continué de grandir. Des personnes, et d'ailleurs si on pense à l'Église persécutée, elle continue de grandir. La souffrance est là, mais l'Église continue de grandir. Des personnes pourtant modestes en apparence étaient là au bon endroit au bon moment. Et le même Dieu qui était intervenu de façon si spectaculaire pour Joseph, le même Dieu qui avait fait des miracles et qui va en faire d'autres encore, eh bien, il a discrètement placé ses pions. Et peut-être que certains vivent actuellement une période pendant laquelle Dieu place ses pions dans leur vie. Il agit peut-être pas de façon spectaculaire, mais il prépare quelque chose. Il n'est pas inactif. Il n'a rien oublié. Il permet la souffrance, il nous forme par elle. Il sait les bons projets qu'il a pour nous au-delà de ce temps de souffrance, même si nous ne les connaissons pas. Enfin, on connaît ultimement ces bons projets pour nous, mais peut-être pas dans l'immédiat ce qu'il va faire. Et en même temps, il agit de mille et une manières à petite échelle pour manifester sa fidélité. Il nous donne d'ailleurs tant de choses au quotidien que nous prenons pour un dû, si souvent. L'air que nous respirons, rien que ça. À n'importe quel moment, Dieu pourrait arrêter de nous fournir de l'air. Il est le Créateur qui est souverain sur toute chose. La nourriture et le vêtement. Des personnes aussi qu'il place sur notre chemin, qui sont là, au bon endroit, au bon moment. Comme le dit un cantique qu'on chante parfois ici, si nous comptons les bienfaits de Dieu, bien même dans les temps d'épreuve, nous verrons combien le nombre en est grand. Maintenant, il y a quelque chose de plus décisif encore qui peut nous aider à tenir dans l'épreuve. C'est de ne pas perdre de vue le plan large de l'action de Dieu. Nous l'avons vu, les Israélites avaient été prévenus qu'ils passeraient par cette épreuve. Et quant à nous, alors Dieu ne nous a pas forcément prévenus des épreuves très précises que nous allons vivre, comme il avait fait pour les Israélites, mais par contre, on l'a vu, Jésus-Christ nous a bel et bien prévenus que les épreuves feraient partie de la vie chrétienne. Alors souvent, quand on est dans l'épreuve, certains pourraient sûrement en témoigner, on est, comme on dit, le nez dans le guidon. On a du mal à voir autre chose que cette souffrance qu'on vit au jour le jour. Et c'est normal, c'est compréhensible. Dans le psaume que Wissam a lu au début, c'est un peu pareil. Le psalmiste, il est un peu le nez dans le guidon. Ça n'empêche pas de dire des choses qui sont vraies et authentiques et qui sont dans la parole de Dieu, mais c'est difficile de voir parfois au-delà de la souffrance. Et pourtant, Dieu nous invite à lever les yeux et à considérer ses promesses et ses projets. À considérer le plan large de ce qu'il fait dans l'histoire, parce qu'il nous a inclus dans cette histoire, si nous avons placé notre foi en Christ. Et pour nous qui avons le privilège de vivre après Jésus-Christ, après la venue de Jésus-Christ sur terre, eh bien nous pouvons revenir encore et encore à tout ce que nous avons déjà reçu si nous avons placé notre foi en lui. Dieu a envoyé Jésus pour nous délivrer d'un esclavage bien plus profond encore, plus grave que l'esclavage en Égypte. Il est venu nous délivrer de l'esclavage de notre propre perdition, c'est-à-dire tout simplement d'une vie vécue vainement, loin de Dieu, sans Dieu. Et si nous avons reçu cette libération offerte par Jésus, alors nous avons déjà été bénis au-delà de ce qui est concevable. Nous avons déjà reçu l'essentiel et de loin. Écoutons ce qu'écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, verset 7. « En lui, par son sang, donc en Jésus, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » Et puis au verset 11 du même chapitre, « En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. » Donc si on fait partie du plan de Dieu et d'un plan où Dieu a tout décidé pour mettre en œuvre selon les décisions de sa volonté, quelle bonne nouvelle pour nous. Et puis au verset 19, Paul évoque, toujours le même chapitre, « l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité. » Cette puissance par laquelle Dieu a ressuscité Jésus, eh bien, il la met en œuvre dans nos vies aujourd'hui pour nous transformer de l'intérieur. Et là, ce n'est pas des choses abstraites, ce n'est pas des idées abstraites, simplement des idées de théologiens, entre guillemets. Non, ce sont des actes concrets, historiques. Jésus est mort, il est ressuscité, il nous a donné son esprit. Il nous a adoptés de manière irrévocable comme ses enfants. L'essentiel de la vie, nous l'avons déjà. Nous connaissons le Créateur, le Dieu de la vie. Et tout cela nous garantit l'issue de notre vie et de notre foi. Alors dans les moments où l'épreuve semble ne faire qu'augmenter, rappelons-nous que Dieu n'a rien oublié. Il reste le même, il agit en coulisses parfois, mais grâce aux promesses qu'il a déjà accomplies pour nous en Jésus-Christ, l'issue de notre chemin avec lui ne fait pas de doute. Je vous invite à prier. Oui, Père, tu permets parfois la souffrance, et parfois cela nous surprend, surtout quand elle dure longtemps, surtout quand elle suit des temps beaucoup plus qui nous paraissaient beaucoup plus favorables et bénis. Et nous pouvons nous demander pourquoi tu permets ce chemin difficile. Je voudrais te prier, Père, de nous aider à lever les yeux, à nous rappeler ce que tu fais dans l'histoire, à nous rappeler ce que tu as déjà fait pour nous. Et puis, apaise comme tu l'as fait pour les Israélites en ton temps, apaise ces souffrances et ces douleurs, encourage à nouveau ceux et celles parmi nous ce soir qui passent par ces temps d'épreuve, renouvelle leur espérance, renouvelle leur joie et leur paix. Permets que nous soyons aussi une communauté où nous pouvons nous encourager les uns les autres, où ceux qui sont actuellement encouragés peuvent relever ceux qui passent par le découragement, pour pouvoir peut-être un jour être à leur tour relevés par eux. Seigneur, merci pour ce livre de l'Exode qui nous parle de ce que tu as fait pour libérer ce peuple. Et Seigneur, nous savons qu'il y a là une préfiguration, une anticipation de ce que tu as fait à l'échelle mondiale en envoyant Jésus-Christ parmi nous. Merci pour lui, pour notre Sauveur. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.